Joël, tu as vu Alphonse?
Tu sais, il veut pas sortir. Il est enfermé dans sa chambre, il veut rien entendre. Non, même pas.
De toute façon, Séverine est...
Personne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel.
Viens. Tu vas rentrer dans ta chambre, hein. Tu vas relire le scénario, tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir, hein. Demain, c'est le travail, et le travail est plus important.
Ça peut pas faire de mal.
Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut, Alphonse, je compte sur toi.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Je ne suis pas prêt d'oublier ce film génial de la fin du siècle dernier par lequel tout a commencé. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Ce film célèbre des frères Lumière n'était pourtant que le résultat de leur découverte de la caméra, de la pellicule et de l'appareil de projection. Dans ce spectacle, qui ne dure que 30 secondes, nous voyons sur un quai de gare inondé de soleil des dames et des messieurs qui se promènent et un train qui s'avance du fond de l'image vers la caméra. À mesure que le train se rapprochait, les spectateurs d'alors, saisis de panique, s'enfuyaient de la salle en courant. C'est cet instant précis qui a marqué la naissance du cinéma. Pour la première fois dans l'histoire des arts et de la culture, l'homme avait trouvé le moyen de fixer le temps et de le reproduire, de le répéter, d'y revenir autant de fois qu'il le voulait. L'homme était en possession d'une matrice de temps réel. Le cinéma avait soudain la capacité de prendre tout ce qu'il voulait de la vie. Le réalisateur russe Andrei Tarkovsky donne ici l'une des meilleures définitions du cinéma, un art vivant, spectaculaire, presque magique, un art devenu indispensable. Depuis plus d'un siècle, on se presse dans les salles obscures en quête d'émotions fortes et d'histoires incroyables. Pourquoi ? Parce que le cinéma, c'est mieux que la vie. La formule est signée François Truffaut qui n'attendait des films qu'une chose, qu'ils le fassent vibrer. Comme lui, de nombreux cinéastes et acteurs ont réfléchi aux moyens d'exercer cet art et ont beaucoup écrit sur leurs doutes ou leurs réussites, sur la manière de regarder et de filmer le réel. Ce soir, Festival de Cannes oblige, l'émission leur est consacrée. De la découverte du cinématographe aux souvenirs de tournage en passant par les critiques célèbres et les confessions inattendues, je vous propose de partir à la rencontre de grands artistes, des esprits immortels, Renoir, Guitry, James Dean et bien d'autres. Commençons par les confidences du plus célèbre cinéaste suédois, Ingmar Bergman. Dans son très beau livre « Laterna Magica », le réalisateur du 7e Sceau revient sur son parcours, son enfance et son éducation rigide. Élevé par un père pasteur qui contrôle tous ses faits et gestes, Bergman rêve très tôt de cinéma et s'y rend d'ailleurs quelquefois avec sa grand-mère. Voici un épisode étonnant de sa biographie. L'action se déroule dans le fameux presbytère, un soir de Noël. Le réveillon était chez nous une fête assez calme. Elle commençait à 5 heures par la prière de Noël à l'église. Elle se poursuivait par un repas joyeux, mais sans excès. On lisait l'évangile et on allait se coucher tôt, car il fallait se lever à temps pour assister à la messe du matin. Le réveillon était un excitant prologue aux festivités du jour de Noël. Celle-ci éclatait avec le déjeuner. Père avait alors accompli ses devoirs professionnels, il échangeait sa redingote de pasteur contre une veste d'intérieur. Il était de son humeur la plus joyeuse, il improvisait un discours en vers pour haranguer les invités, il chantait une chanson composée pour la circonstance, portait des toasts, buvait de l'aquavite, imitait ses confrères et faisait rire tout le monde. Je pense quelquefois à sa légèreté, à son insouciance, à sa tendresse, à sa magnificence. Tout ce qui a été si facilement oblitéré par les ténèbres, la pesanteur, la brutalité, la distance. Je crois que souvent dans ma mémoire, je lui ai fait du tort. Tout le monde allait se coucher après le déjeuner et on dormait des heures d'affilée. Cependant, la tendance avait apparemment continué à travailler. À 2 heures, juste quand tombe le crépuscule, on servait le café de l'après-midi. On s'approchait ainsi du clou gastronomique du jour de Noël, le dîner. Il se passait dans la vaste cuisine où s'effaçaient pour un temps les rangs sociaux. La distribution de cadeaux se faisait autour de la table de la salle à manger. On apportait des corbeilles. Père officier avec cigares et verres de punch. On lisait les vers rimés qui accompagnaient les cadeaux. On les applaudissait et on les commentait. Sans bout rimé, pas de cadeau. Alors arrive cette histoire du cinématographe. Le cinématographe, c'est mon frère qui l'a eu. Je me suis mis aussitôt à hurler. On m'a grondé. J'ai disparu sous la table où j'ai continué à tempêter. On m'a dit de me taire. Je me suis précipité dans la chambre des enfants. J'ai juré, j'ai maudit, j'ai échafaudé des projets d'évasion et j'ai fini par m'endormir de chagrin. La fête se poursuivait. Plus tard, le soir, je me suis réveillé. En bas, Gertrude chantait une chanson populaire. La veilleuse brillait. Un transparent représentant la crèche et l'adoration des bergers luisait faiblement sur la haute commode. Sur la table blanche avec ses rallonges, il y avait au milieu des autres cadeaux de Noël de mon frère le cinématographe avec sa cheminée recourbée, son élégante lentille de cuivre et le dispositif pour les rouleaux de film. Ma décision fut immédiate. J'ai réveillé mon frère et je lui ai proposé une affaire. Je lui offrais mes 100 soldats de plomb contre son cinématographe. Comme Dag avait une grande armée et qu'il était toujours impliqué dans des activités guerrières avec ses amis, l'accord fut conclu à la satisfaction des deux parties. Le cinématographe était à moi. Ce n'était pas une machine compliquée. Comme source de lumière, il y avait une lampe à pétrole et la manivelle était reliée à une roue dentée et une croix de malte. Au fond de la boîte, en tôle, un simple miroir. Derrière la lentille, un dispositif pour des projections en couleur. Une boîte violette rectangulaire accompagnait l'appareil. Elle contenait d'une part quelques images sur verre et d'autre part un bout de film sépia 35 mm. Il mesurait à peu près 3 mètres et il avait été collé pour former une boucle qui tournait sans fin. Il était indiqué sur le couvercle que le film s'appelait Frau Holle. Qui était cette Frau Holle? Personne ne le savait, mais il s'avéra plus tard qu'elle était un équivalent populaire de la déesse de l'amour dans les pays méditerranéens. Le lendemain matin, je me retirai dans l'immense penderie attenante à la chambre des enfants, je posai l'appareil sur une caisse, j'allumai la lampe à pétrole et je dirigeai le faisceau de lumière sur le mur peint en blanc. Puis je chargeai le film. L'image d'un pré apparut sur le mur. Sur ce pré, une jeune femme dormait en robe apparemment folklorique. Quand je tournai la manivelle, il m'est impossible d'expliquer ça. Je ne trouve pas de mots pour décrire mon excitation. Mais je peux à n'importe quel moment me rappeler l'odeur du métal chaud, de l'antimite et de la poussière dans la penderie, la manivelle dans ma main et ce rectangle qui tremblotait sur le mur. Je tournais la manivelle, la fille se réveillait, elle s'asseyait, elle se levait lentement, elle étendait les bras, elle se retournait et disparaissait à droite. Si je continuais à tourner la manivelle, la fille était de nouveau couchée, elle se réveillait et elle refaisait exactement les mêmes gestes. Elle bougeait.
Alfredo, faut pas me disputer. Oh. C'est ta femme qui m'a dit de t'apporter ton manger.
Donne-moi ça. J'ai commencé ce métier, moi j'avais 10 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas les machines modernes d'aujourd'hui. Les films étaient muets. Et puis tu tournais le projecteur à la main, comme ça. Avec la manivelle. Toute la sainte journée, tu tournais la manivelle. Elle était dure, cette foutue manivelle. Tu dois pas faire ce métier. T'es comme un esclave. T'es seul toute la journée. Tu vois 100 fois le même film parce que tu sais pas quoi faire. Tu te mets à parler avec Greta Garbo, Tyrone Power, comme un fou.
Mais t'aimes vraiment rien de ce que tu fais?
Et avec le temps, on s'habitue. Et puis quand t'entends d'ici que le cinéma est plein et que les gens s'amusent et rient, alors... Toi aussi, t'es content. Ça te fait plaisir que les gens rient. C'est un peu comme si c'était toi qui les faisais rire.
Quelques années plus tôt, au tout début du XXe siècle, un garçon ne sait pas encore ce qu'est le cinéma. Il s'appelle Jean Renoir. Il raconte dans ses mémoires les étapes qui l'ont mené derrière la caméra. De la découverte du pouvoir de l'image à ses chefs-d'œuvre de cinéma, le réalisateur de La Grande Illusion revient dans « Ma vie et mes films » sur les moments charnières de sa vie. À l'âge de 9 ans, grâce à un directeur d'école qui de temps en temps sort un projecteur, il voit son premier film. Puis le garçon grandit et il est envoyé dans les tranchées. Blessé à la jambe, il ne peut plus combattre et se retrouve dans une escadrille où il fait la connaissance du camarade Richet. C'est lui qui lui parle un jour d'un dénommé Charlot, louant son talent exceptionnel. Dès que j'eus une permission, je me rendis à Paris avec l'intention de voir un film de Charlot. J'allais d'abord embrasser mon frère aîné, Pierre, que je n'avais pas vu depuis le début de la guerre. Il avait eu le bras fracassé par une balle allemande et avait été démobilisé. Pierre était un martyr, mais il ne se plaignait jamais. Il était marié à l'actrice Vera Sergine. À peine avais-je retiré ma capote et mon calot que Pierre me demanda « As-tu vu Charlot ?» Je lui fis part de l'opinion de mon camarade Richet. « Ça ne m'étonne pas, dit-il. La grandeur appelle la grandeur. » Et nous allâmes ensemble voir un court-métrage de Charlot qui passait dans un petit cinéma d'Éterne. Dire que j'étais enthousiaste est insuffisant, j'étais bouleversé. Jean Renoir fréquente les salles obscures dès qu'il peut, c'est là qu'il se sent le mieux. Mais son père a d'autres projets pour lui. Heureux celui qui ignore tout du cinéma et qui se contente d'admirer les films des autres. C'est reposant. Mais à condition de ne pas avoir goûté aux fruits défendus. Le cinéma m'a apporté bien des déceptions, bien des déboires, mais les joies que je lui dois dépassent largement les misères. Si c'était à refaire, je ferais du cinéma. Mon père, lui, rêvait de me voir faire de la céramique. Il avait installé pour mon petit frère Claude et moi-même un atelier et un four dans une vieille bâtisse à quelques pas de notre maison. Il ne croyait pas au métier où la main ne jouait aucun rôle. Il se méfiait des intellectuels. Jean Renoir rencontre Catherine Essling, surnommée Dédé, sa future épouse, qui sert un temps de modèle à son père. Le couple a le même rêve, le cinéma. Et ils y passent chaque jour de longues heures. Notre amour du cinéma devait fatalement nous amener à entrer dans la carrière. Dédé était très belle, d'une beauté insolite. On le lui disait de tous côtés et il lui était difficile de l'ignorer. Nous allions presque tous les jours au cinéma et avions fini par vivre dans le monde irréel des films américains. Ajoutons que Dédé appartenait à la même catégorie féminine que les stars dont nous suivions les apparitions sur l'écran. Dédé copiait leur manière, s'habillait comme elle. Dans la rue, les passants l'arrêtaient pour lui demander s'il l'avait vue dans tel ou tel film. De là à croire que Dédé n'aurait qu'à se montrer pour être accepté au même titre qu'une Gloria Swanson, une Mae Murray ou une Mary Pickford, il n'y avait qu'un pas. Ce pas, je demandais à mon ami Pierre Lestringer, qui était écrivain et qui avait des relations dans le cinéma, d'aider mon épouse à le franchir. Moi-même, j'étais bien déterminé à ne jouer dans l'entreprise que le rôle financier. Il devait s'avérer catastrophique. J'insiste juste sur le fait que je n'ai mis les pieds dans le cinéma que dans l'espoir de faire de ma femme une vedette. Je comptais bien, une fois ce but atteint, retourner à mon atelier de céramique. Je ne me doutais guère qu'une fois le doigt dans l'engrenage, il me serait impossible de me dégager. Si on m'avait dit alors que je consacrerais tout mon argent et toute mon énergie à faire des films, on m'aurait bien épaté.
Un film est un tout et plus ou moins l'œuvre d'une équipe.
Jean Renoir.
Cette équipe, il s'agit de la former, de lui donner une âme, de la diriger. C'est en cela que le metteur en scène est un auteur. Mais on ne fait pas un film tout seul, il faut bien le savoir. Et devant un film, comme devant un roman, comme devant une symphonie, il faut bien se dire que ça ne se découpe pas en tranches comme un melon, mais que c'est un tout, que c'est un objet. Un film, ça devrait pouvoir se prendre et se poser sur une table comme un tout.
Dernière image du film, les temps modernes, Charlie Chaplin, avec la petite Paulette Godard, main dans la main, il se bat, le vagabond, sa vagabonde, leur amour pour conquérir le monde. Moi qui n'ai pas de badine, de chapeau melon, façon Chaplin, j'aimerais partir avec toi du premier pas à l'ultime. Moi vagabond, toi vagabonde, notre amour pour conquérir le monde. Avec toi j'aimerais bien partir comme eux, lui dans ses croque-noël avec sa robe bleue. Car l'on verrait la vie en rose, même dans un film en noir et blanc. Allez ma Paulette, fais-moi ta risette, et les voilà partis contents. Le petit homme et la petite femme s'éloignant dans le soleil couchant. Avec la petite Paulette Godard, main dans la main, il se bat. Le vagabond, sa vagabonde, leur amour pour conquérir le monde. Le vagabond, sa vagabonde, amour pour conquérir le monde.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Jean Renoir va devenir le cinéaste qu'on sait. La Grande Illusion, Tony, La Règle du Jeu, Le Carrosse d'Or. Ses chefs-d'œuvre n'échappent pas au jeune François Truffaut qui, dans les années 40, fait l'école buissonnière pour aller voir ses films en cachette.
Il y a eu un désir, un moment, de voir 2-3 films par jour. C'est ça, il y avait vraiment la recherche du plus grand nombre de films possibles à voir. Et ils étaient répertoriés dans un carnet alphabétique, et donc avec des croix qui indiquaient combien de fois je les avais vus, puisque je reprenais le titre dans l'alphabet. Et puis après, je suis passé là à des agendas, simplement, où je marquais les films que j'avais vus dans la journée.
La rencontre d'André Bazin met le jeune homme sur le chemin de la critique cinématographique. Au cahier du cinéma, Truffaut fréquente Chabrol, Rivette, Demy, Romère, Godard. Des jeunes passionnés qui entendent bien créer une nouvelle vague. En 1955, Truffaut envisage avec Chabrol d'interviewer leur modèle absolu, Alfred Hitchcock. Pour eux, c'est un génie. L'un de ces artistes qui nous aident à nous connaître, disent-ils. Coup de chance, le cinéaste aux 40 films se trouve justement en France et accepte de les rencontrer. Voici comment les choses se sont passées. Truffaut raconte cet épisode en introduction de son Hitch Book, le livre d'entretien réalisé en 1962 avec le maître du suspense. Tout a commencé par une chute dans l'eau. Au cours de l'hiver 1955, Alfred Hitchcock vint travailler à Joinville, au studio Saint-Maurice, à la post-synchronisation de « To Catch a Thief », la main au collet, dont il avait tourné les extérieurs sur la Côte d'Azur. Mon ami Claude Chabrol et moi décidâmes d'aller l'interviewer pour les cahiers du cinéma. Nous avions emprunté un magnétophone pour enregistrer cet entretien que nous voulions long, précis et fidèle. Il faisait bien sombre dans cet auditorium où travaillait Hitchcock, tandis que, sur l'écran, défilait sans relâche, en boucle, une courte scène du film montrant Gary Grant et Brigitte Aubert pilotant un canot automobile.
Hey, vous faites de l'esprit. Pour vous apprendre à devenir une jeune fille convenable, vous mériteriez que je vous botte le derrière.
Ne me touchez pas, car je me défendrai.
Dans l'obscurité, Chabrol et moi, nous nous présentons à Hitchcock qui nous demande d'aller l'attendre au bar du studio de l'autre côté de la cour.
Je vous conduis jusqu'en Amérique?
Non, jusqu'au Beach Club de Cannes.
Nous sortons, éblouis par la lumière du jour, et tout en commentant avec l'enthousiasme des vrais cinglés de cinéma les images hitchcockiennes dont nous venons d'avoir la primeur, nous nous dirigeons, droit devant nous, vers le bar qui se trouve là, à 15 mètres. Sans nous en rendre compte, nous enjambons tous les deux, du même pas, le mince rebord d'un grand bassin gelé, de la même couleur grise que le bitume de la cour. La glace craque aussitôt, et nous nous retrouvons dans l'eau jusqu'à la poitrine, hébétés. Je demande à Chabrol « Et le magnétophone ?» Il lève lentement son bras gauche et sort de l'eau l'appareil tout dégoulinant. Comme dans un film d'Hitchcock, la situation était sans issue. Le bassin étant incurvé en pente très douce, il nous était impossible d'en atteindre le bord sans glisser à nouveau. Il fallut la main secourable d'un passant pour nous tirer de là. Enfin, nous sortons et une habilleuse que nous croyons compatissante nous entraîne vers une loge afin que nous puissions nous y déshabiller et faire sécher nos vêtements. En chemin, elle nous dit « Eh bien, mes pauvres enfants, vous êtes des figurants du rififi chez les hommes ?»« Non, madame, nous sommes journalistes. » Alors dans ce cas, je peux pas m'occuper de vous. C'est donc en grelottant dans nos vêtements encore trempés que nous nous sommes présentés à nouveau devant Alfred Hitchcock quelques minutes plus tard. Il nous a regardés sans faire de réflexion sur notre état et il a bien voulu nous proposer un nouveau rendez-vous pour le soir même à l'hôtel Plaza Athénée. L'année suivante, lorsqu'il est revenu à Paris au milieu d'un groupe de journalistes parisiens, il nous a immédiatement repérés, Chabrol et moi, et nous a dit « Messieurs, je pense à vous deux chaque fois que je vois des cubes de glace qui s'entrechoquent dans un verre de whisky. » Je devais apprendre quelques années plus tard qu'Hitchcock avait embelli l'incident en l'enrichissant d'un final à sa manière. D'après la version Hitchcock, telle qu'il la racontait à ses amis d'Hollywood, nous présentant devant lui après notre chute dans le bassin, Chabrol était habillé en curé et moi en agent de police.
Allô ? Ah, c'est toi, Albert. Non, tu ne me déranges pas. Mais si tu m'avais téléphoné dans une minute, tu m'aurais dérangé. Car je ne te cacherai pas que dans l'instant même où je te parle, je commence un nouveau film.
Truffaut a écrit certains des plus beaux textes de la critique française. Capra, Hawks, Kubrick, Clouseau, Ophuls. Il a ausculté ses pairs et ses contemporains avec justesse et admiration. Voici l'hommage qu'il consacre à Sacha Guitry dans son recueil « Les films de ma vie ». L'article, paru en 1957, s'intitule « Guitry le malicieux ». Sacha Guitry n'avait pas de complexe, et c'est tant mieux pour le cinéma français. Il était un bâcleur, il détestait s'apesantir et fignoler un film. Il était content de son scénario, sûr de ses interprètes, il aimait à enregistrer le plus vite et le plus commodément possible, avec parfois deux caméras ronronnant simultanément. En 1936, Sacha Guitry tourne quatre films. Songez-y, quatre films en une seule année. Les revoir aujourd'hui et les confronter avec les faux chefs-d'œuvre de la même époque constitue une leçon instructive. Sacha Guitry fut un vrai cinéaste, plus doué que Duvivier, Grémillon et Feder, plus drôle et certainement moins solennel que René Clair. Il a traversé l'histoire du cinéma en se moquant des modes et des tendances. Il n'a jamais pratiqué le réalisme poétique, le réalisme psychologique, la comédie à l'américaine. Il fit toujours du Sacha Guitry, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une trouvaille généralement cocasse, il brodait sur des thèmes qui lui étaient personnels. Les bienfaits de l'inconstance amoureuse, l'utilité sociale des asociaux, toujours les paradoxes de la vie. Le secret de Renoir s'appelle la familiarité, celui de Guitry, la malice. Leurs films se répondent et sympathisent par l'originalité et la franchise avec lesquelles ils traitent le premier sujet du monde, les rapports entre les hommes et les femmes, et aussi le deuxième grand sujet, les maîtres et les domestiques. Guitry et Renoir se rejoignent par une simplicité qui autorise toute leur fantaisie, un sens du réalisme qui poétise toute leur désinvolture, sans oublier chez tous les deux un solide pessimisme à peine masqué, sans lequel l'amour déclaré de la vie rend n'importe quelle œuvre forcément suspecte. Il y a enfin en compensation un culte de l'amitié et de l'admiration presque bouleversant. Le premier film de Sacha Guitry, ceux de chez nous, nous montre en muet les artistes que le jeune Sacha admirait le plus. Mirbeau, Auguste Renoir, Claude Monet, Rodin, Degas, Saint-Saëns, Anatole France. Dans son dernier, Les Trois font la paire, il rend hommage à Simenon, Alfred Jarry et Michel Simon. La dernière image cinématographique que nous connaissons de lui, c'est le prologue de ce film, lorsqu'il téléphone à son ami Albert Wilmette et lui fait ses adieux tout en courbant un peu le visage pour que sa maigreur ne nous émeuve point trop.
Au revoir Albert Wilmette, ami de mon enfance. Je t'embrasse. Albert, est-ce que tu sais quand nous avons déjeuné ensemble pour la première fois? Le jour de notre première communion.
Il y a 2 ans, pendant le tournage de Assassins et voleurs, j'ai voulu interviewer Sacha Guitry. Le secrétaire me répondit que c'était possible à la condition de préparer mes questions et de les faire lire au maître préalablement. Stupidement, je refusais. J'étais idiot ce jour-là. Truffaut était fan de cinéma américain et notamment de James Dean. À la mort de l'acteur, il décide de lui consacrer un article. Le 30 septembre 1955 au soir, négligeant les conseils de prudence que lui prodiguaient les chefs du studio Warner Bros., James Dean s'installait au volant de sa voiture de course et trouvait une mort accidentelle sur une route du nord de la Californie. La nouvelle, apprise à Paris le 31, ne suscita point une émotion profonde. Un jeune acteur de 24 ans était mort, voilà tout. 6 mois ont passé, 2 films sont sortis et nous avons appris à mesurer la gravité de cette perte. James Dean avait été remarqué il y a 2 ans à Broadway, alors qu'il tenait le rôle du jeune arabe dans une adaptation théâtrale de l'immoraliste d'André Gide. À la suite de quoi, il y a 15 ans, le faisait débuter au cinéma en lui confiant d'emblée la vedette de À l'Est d'Éden. Puis Nicholas Ray le choisit pour être le héros de La Fureur de Vivre, et enfin George Stevens le prit pour jouer dans Giant, le rôle principal, celui d'un homme que l'on regarde vieillir de sa 20e à sa 60e année. « Je crois que je vais faire une balade dans la Spider », dit-il un jour à George Stevens. La Spider était le nom de série de sa Porsche. Dean, qui par obligation de contrat n'avait pas piloté sa voiture pendant toute la durée du tournage, s'enfuit donc à Salinas pour participer à une course. Accident. Près de Paso Robles, c'était le soir, sa Spider fut accrochée par une autre voiture débouchant par côté d'une route secondaire. James Dean mourut pendant qu'on le transportait à l'hôpital des suites de fractures multiples des 2 bras et de contusions internes.
Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie?
T'es une poule mouillée.
Qui, moi?
Oui, t'es un dégonflé.
Le jeu de James Dean...
Je veux pas qu'on m'appelle comme ça.
...contredit 50 années de cinéma.
Toi, qu'est-ce que tu fais là?
Il joue autre chose que ce qu'il prononce. Il joue à côté de la scène.
Faut toujours que tu sois au premier rang.
En quoi ça te regarde?
Non, ça me regarde pas. Mais pourquoi fais-tu partie de cette bande de voyous?
Son regard ne suit pas la conversation.
Qu'est-ce que tu as dit?
Il décale l'expression et la chose exprimée comme...
Je veux pas voir l'histoire.
Par sublime pudeur, un grand esprit prononcera de fortes paroles sur un ton humble, comme pour s'excuser d'avoir du génie, pour ne pas en importuner autrui. Le jeu de James Dean est plus animal qu'humain, et c'est en cela qu'il est imprévisible. Il peut rire là où un autre acteur pleurerait, et inversement, puisqu'il a tué la psychologie le jour même où il est apparu sur une scène. En James Dean, la jeunesse actuelle se retrouve tout entière, moins pour les raisons que l'on dit, violence, sadisme, frénésie, noirceur, pessimisme et cruauté, que pour d'autres infiniment plus simples et quotidiennes. Pudeur des sentiments, fantaisie de tous les instants, pureté morale, goût éternel de l'adolescence pour l'épreuve. Ivresse, regret de se sentir en dehors de la société, refus et désir de s'y intégrer, et finalement acceptation du monde tel qu'il est. Sans doute le jeu de James Dean, par sa modernité, inaugure-t-il un nouveau style d'interprétation à Hollywood, mais la perte est irréparable d'un jeune acteur, le plus génialement inventif du cinéma et qui, en bon cousin de D'Argelos qu'il était, trouva sur la route la mort du jeune Américain des Enfants Terribles, décrite par Jean Cocteau en 1929. La voiture dérapait, se broyait, se cabrait contre un arbre et devenait une ruine de silence, avec une seule roue qui tournait de moins en moins vite, en l'air, comme une roue de loterie. « Restons en Amérique et découvrons quelques pépites et indiscrétions du monde du cinéma révélées par Peter Biskin dans son livre « Le Nouvel Hollywood ». À propos du film « Le Lauréat » de l'Américain Mike Nichols, on apprend que le rôle joué par Dustin Hoffman avait été proposé à un autre acteur. Le couple devait être interprété à l'origine par Robert Redford et Candice Bergen. C'est en voyant les essais de Redford que Mike Nichols changea d'idée. Après l'avoir vu à l'écran, j'ai essayé d'expliquer à Robert Redford que le rôle n'était pas pour lui, qu'il n'était pas crédible dans la peau d'un type qui se bat pour conquérir une fille. « Je ne comprends pas », me répondit-il. « Bon, comment t'expliquer ? Est-ce qu'une fille s'est déjà refusée à toi ? Refusée à moi ? Qu'est-ce que tu entends par là ?» Mon opinion était faite. En 1972, sur le tournage de L'Exorciste de William Friedkin, rien ne se passe comme prévu et l'équipe est confrontée au difficile caractère du réalisateur. Dès le départ, Friedkin mit la barre très haut. Au dos de son fauteuil de réalisateur, il était écrit à gauche de son nom « Un Oscar pour L'Exorciste ». Autant dire que le tournage ne s'annonçait pas facile. La première prise dans les studios de la 20th Century Fox, sur la 5e, était un gros plan sur des tranches de bacon sur le grill. Friedkin fit savoir qu'il ne voulait pas que le bacon se torde en cuisant. La prise fut donc suspendue le temps que le chef accessoiriste fasse le tour de la ville pour trouver du bacon sans conservateur qui, soi-disant, resterait plat à la cuisson. Tout le tournage fut à l'image de cette prise. Friedkin piquait une crise, renvoyait les gens le matin et les réengageait l'après-midi même. Il attaquait n'importe qui, n'importe quand, à propos de n'importe quoi. Sur le tournage, on l'appelait Willy le cinglé. Ses méthodes étaient un peu particulières. L'actrice Bernstein, qui jouait le rôle de la mère de la jeune fille possédée, se souvient. « Il a toujours été super avec moi, sauf le jour où il m'a abîmé la colonne vertébrale. » 1975, quelques mois avant le tournage des Dents de la Mer, tourné par ce jeune réalisateur inconnu, Steven Spielberg. Steven emmena ses copains Scorsese, Lucas et Milius voir le requin en construction dans un hangar au nord d'Hollywood. Spielberg s'était d'abord dit qu'il suffirait d'engager un dresseur susceptible de faire à un requin blanc ce qu'on pouvait faire avec un simple dauphin. Cette illusion fut de courte durée. Les quatre hommes se trouvaient maintenant en face d'une mécanique surnommée Bruce, en hommage à Bruce Dern, l'avocat de Spielberg. Au milieu du hangar trônait le moulage en polyéthylène, pas encore peint, sorte d'objet phallique tout gris de la taille d'un sous-marin, flanqué de plaques d'au moins 7 mètres de long sur les côtés. Milius s'exclama « Mais c'est beaucoup trop grand !» Ce à quoi Steven répondit « Non, non, l'ichtyologiste a dit que c'était sa taille exacte. » Milius était tout excité à l'idée que Steven puisse réaliser le premier film de samouraï aquatique. George Lucas jeta un œil sur le storyboard. Il dit à Spielberg « Si tu arrives à mettre la moitié de tout ce que je vois là-dedans dans ton film, tu tiendras le plus gros succès de tous les temps. » Steven se saisit des commandes et devant ses amis ébahis, fit s'ouvrir et se refermer les mâchoires du mastodonte avec un crissement insupportable. Lucas grimpa sur l'échelle et attendit l'ouverture des mâchoires pour passer une tête dans la gueule du monstre et en observer le mécanisme. Spielberg la referma sur lui, puis tenta de rouvrir les mâchoires. Mais le mécanisme se bloqua. Lucas avait toujours la tête dedans. Ils réussirent finalement à l'en extirper, puis déguerpir comme des voleurs. Ils savaient qu'ils avaient cassé quelque chose qui devait valoir une petite fortune.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
Je voulais seulement une journée, un train de banlieue un matin. Je voulais seulement arriver sur un générique de fin. Juste une enquête, ce Carrie et Lino. 77 et François Droubet dans le dos. Je réclame juste un plat du jour. En février à Paris, des taches de rousseur qui courent. La serveuse de la brasserie, juste un impair, juste une Peugeot. François Droubet dans le dos. L'appartement Courbevoie, le papier peint orangé. Je voulais juste rentrer chez moi, les essuie-glaces, la porte maillot, une vie qui passe, et François Droubet dans le dos. Juste un impair, juste une Peugeot, une vie à faire, et François Droubet dans le dos.
Année en France, 1975, sont publiées les notes sur le cinématographe de Robert Bresson. Bresson, c'est le journal d'un curé de campagne, le procès de Jeanne d'Arc ou encore le diable probablement. Toute sa vie, il s'est efforcé à ne pas penser pour filmer.
Je crois que dans toute création, il y a de l'alchimie. Je crois que toute création doit se faire inconsciemment. Dès qu'on essaie d'éclairer cette chose obscure, on ne la fortifie pas. Il faut pouvoir réfléchir dans les intervalles du travail, et puis quand on travaille, se laisser conduire par des forces qui sont obscures et qu'on n'a aucune raison d'éclairer, ni aucun avantage à éclairer.
Dans ce recueil de notes, il dévoile non pas les secrets de fabrication d'un artiste, mais ses multiples questionnements. L'important n'est pas ce que les acteurs me montrent, mais ce qu'ils me cachent, et surtout ce qu'ils ne soupçonnent pas, qui est en eux. Ne cours pas après la poésie. Elle pénètre toute seule par les jointures. Que ce soit les sentiments qui amènent les événements, non l'inverse. Ni metteur en scène, ni cinéaste, oublie que tu fais un film. Sois le premier à voir ce que tu vois comme tu le vois. Creuse ta sensation. Regarde ce qu'il y a dedans. Ne l'analyse pas avec des mots. Traduis-la en images sœurs, en sons équivalents. Plus elle est nette, plus ton style s'affirme. Fais apparaître ce qui sans toi ne serait peut-être jamais vu. Ne pas montrer tous les côtés des choses, marge d'indéfini. Ce que je rejette comme trop simple, c'est ce qui est important et qu'il faut creuser. Stupide méfiance des choses simples. Quand je n'écoute que moi, je fais des merveilles. Penser comme Cézanne. À chaque touche, je risque ma vie.
Et alors, et maintenant ? Vous trouvez pas que vous avez l'air un peu couillon ?
Vous tombez mal, les gars. J'inaugure mon port d'armes.
Parce que figurez-vous, c'est la troisième déesse qu'on me fauche en moins d'un an.
Alors je commence à en avoir plein le cul, vous comprenez ?
Non, avant de porter plainte, il faut que vous sachiez un truc. Mon copain et moi, on a déjà eu une histoire, il n'y a pas tellement longtemps, dans un prix unique avec les flics et tout. Alors, on est comme en sursis. Hein. Prochain coup, on est bon pour la tôle.
Et la tôle, on veut pas y aller, monsieur. On n'a pas envie.
Pauvre petit con. Moi, je vais vous y conduire en tôle.
Si tu leur faisais une bonne coupe de cheveux à ces azous.
Pas d'erreur possible. On est bien en France.
Pour conclure, laissons la parole à un acteur. Voici les lettres volées de Gérard Depardieu, publiées en 1988. Des textes dans lesquels il salue les camarades de tournage, cinéastes, comédiens ou comédiennes, ses amis éternels. Voici une lettre à Bertrand Blier, avec lequel il a tourné 8 fois, bien sûr, Les Valseuses, mais aussi Tenue de soirée, Préparez vos mouchoirs ou encore Trop belle pour toi. Mon cher Bertrand, un metteur en scène est toujours seul. Je l'entends encore cette phrase, ce leitmotiv. Tous les matins, tu arrivais sur le tournage des Valseuses, la mallette à la main et la pipe au bec, n'adressant la parole à pratiquement personne. Un metteur en scène est toujours seul, répétais-tu. C'est fou ce que cela pouvait me faire mal. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Un metteur en scène n'est pas toujours seul. On est là, nous. On est bien. Aujourd'hui, je me dis que cela a dû être un cauchemar pour toi, ce film. Avec Patrick, on était 2 insolents, 2 déconneurs. Tout ce que l'on pouvait nous dire nous passait au-dessus du cigare. On sentait bien parfois qu'on était maladroit, un peu couillon, mais on continuait de plonger malgré tout. Il s'agissait aussi d'un des premiers films de Bruno Nuitten. Bruno était comme nous, sauvage et féroce, avec beaucoup de choses à prouver. Tout cela faisait une drôle d'ambiance sur le plateau. Tu étais un peu comme la presse voulait absolument te décrire, austère, très réservé, introverti, le genre clergyman. Entre toi et moi, il y eut au début ce que les journalistes sportifs appellent une opposition de style. On était loin de se douter de l'invraisemblable succès des Valseuses. Cela nous est tombé dessus, je dirais, presque en traître. Il y a des triomphes assassins, si puissants qu'ils ne peuvent pas avoir de lendemain. J'ai eu la chance d'avoir à cette époque ma période italienne avec Bernardo Bertolucci et Marco Ferreri. En France, j'aurais peut-être volé en éclats. De ton côté, l'échec commercial de Calmos fut dur à avaler. On se rend compte maintenant que le film était superbement écrit, mais qu'il était simplement en avance. Presque un film d'anticipation. De toute façon, tu as toujours précédé le convoi. Tu es en avance sur la société, la nature humaine. Tu es un éclaireur. Il y a beaucoup de comédiens qui rêvent de travailler avec toi, mais qui décrochent à la lecture du scénario. Ils ne comprennent pas, ils sont déçus. Ils ont 10 longueurs de retard, oui. Faut avoir fait un sacré bout de route avec toi pour pouvoir tenir ton rythme. Faut être un sacré sportif de l'âme. De l'avance, tu en as toujours eu. Les fées se sont penchées sur ton berceau. C'était les copains de ton père, les fées. C'était Louis Jouvet, Paul Meurice, François Perrier, Harry Bord. C'était des pointures, des énormes camionneurs avec toute la fantaisie et la tendresse du monde. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tes yeux d'enfant ont été éclairés par ces gens-là, que tu as dû voir des choses extraordinaires, entendre des dialogues inédits, les plus beaux dialogues de l'histoire du cinéma. Tu es quelqu'un de persécuté par sa propre exigence, par son talent. Tu es le Van Gogh du script. Pas d'alcool, pas besoin d'expédients, non. Tu t'attelles devant ton bureau et tu n'en décolles plus jusqu'à ce qu'il cède. Tu te cognes avec ton talent. Certains te reprochent de ne pas savoir finir tes films, mais tu ne veux pas que tes films finissent. Tes héros n'ont pas de fin. Il n'y a rien de plus con qu'une fin. C'est un accident de la route, c'est une voiture qui se précipite à 250 km/h contre un mur parce que le film doit durer 1h30. C'est très cruel, une fin. Dans ton prochain film, Trop belle pour moi, tu dépasses ta pudeur, ta honte peut-être. Tu ne te réfugies plus derrière ton verbe, tes monologues crus et spectaculaires. Tu racontes une histoire au premier degré de l'amour. C'est un homme que son bonheur angoisse. Il est marié à une créature de rêve, il a 2 enfants merveilleux et un boulot impeccable. Et brusquement, il tombe amoureux de Josiane Balasko. Il ne sait pas pourquoi, mais c'est un attachement qui vient de très loin. Il y a une scène où Josiane est dans le métro. Elle parle soudain à un type juste en face d'elle. J'ai fait l'amour pendant 3 heures. J'ai encore mal à la nuque. Mais pourquoi vous me dites cela à moi ? Lui répond le type. Parce qu'amour, cadeau, partage. Cette petite scène, je me la joue dans ma tête. Tu ne sais pas à quel point je pense à toi, Bertrand. Je te protège comme je peux. Je suis toujours là quand tu as besoin de moi. Tu es quelqu'un à qui on n'a pas le droit de manquer.
Tiens, Marion, je te présente Bernard Granger.
Bonjour.
Bonjour, madame.
J'ai entendu que des choses formidables sur vous.
J'ai parlé avec des gens qui sont allés au Grand Guignol pour la première fois spécialement pour vous voir. Et puis Jean-Louis se trompe rarement.
Quand ils m'ont demandé au Grand Guignol, j'ai hésité avant d'accepter, puis finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer le squelette dans le placard.
Malheureusement, je ne suis pas allée vous voir jouer parce que je ne peux pas sortir le soir. Avant, mon mari s'occupait de tout et je prenais même un certain plaisir à ne rien comprendre aux paperasses, aux règlements, aux questions d'argent. Il a fallu que je me mette au courant très vite. Alors, il faut que nous parlions de votre contrat.
Comment ? Là ? Maintenant ?
Oui, là, maintenant, ce sera fait. Dites-moi, vous gagnez combien au Grand Guignol ?
Depardieu a beaucoup tourné avec Catherine Deneuve. Je vous aime, Le choix des armes, Le dernier métro, Drôle d'endroit pour une rencontre. Les deux acteurs sont amis depuis de nombreuses années. Voici la lettre d'admiration que Depardieu écrit à sa partenaire de toujours. Ma chère Catherine, nous venons de vivre 12 semaines ensemble. C'était la première fois que nous tournions en extérieur la nuit. Je t'ai vue belle et fatiguée, belle et tendue. Je t'ai découverte belle de nuit. Tu traînes avec toi 2 énormes valises de fantasmes alors que tu vis des choses simples, très poétiques. Tu as su protéger ta vie privée, tes enfants. Certains pensent que tu es froide. Tu es simplement directe, franche, sans ambiguïté. On te croit sereine, organisée. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi désordonné et fantaisiste avec l'argent. Mais il y a plus intéressant que l'actrice. Gainsbourg disait que tu marchais comme un soldat. Mastroianni que tu étais un Prussien. Je ne t'ai jamais vu te plaindre sur un tournage. Tu peux rester debout des heures sans un mot sous un soleil de feu ou dans un froid de canard. Tu peux faire la fête, boire comme un hussard et être prête au combat le lendemain. Un jour, dans une interview, j'ai déclaré que tu étais l'homme que je voudrais être. J'ai envoyé cette phrase insensée pour dire que j'envie en toi ces qualités qu'on prête d'ordinaire aux hommes et qu'on trouve si rarement chez eux. Tu es plus responsable, plus forte, plus carapacée que les acteurs. Tu es moins vulnérable. Sans doute ce paradoxe est-il la vraie féminité. La féminité, c'est l'hospitalité, l'ouverture. C'est aussi savoir résister, ne pas se laisser atteindre par ces regards malsains, insistants, allusifs. On n'est pas dans un monde où l'on accepte la féminité. La nuit, dans la tension du tournage de Drôle d'endroit pour une rencontre, on mangea ensemble sur le pouce. J'avais besoin de décharger mes angoisses en racontant des choses énormes de vulgarité. Tu riais pourtant. Tu m'encourageais à me laisser aller. Ton humour, ton indulgence me libéraient. Il y a souvent des histoires plus fortes entre les hommes et les femmes quand la sexualité n'est pas là. Elle était belle, si la nuit qui dort dans la sombre chapelle où Michel-Ange a fait son lit, immobile, peut être belle. Peux-tu m'écrire, Catherine, pour me confirmer qu'il s'agit bien d'un poème d'Alfred de Musset ? Je t'embrasse.
Andrei Tarkovsky.
Tu vas mieux ?
Aussi longtemps que l'homme existera.
Человек будет стараться, не будет стараться, будет инстинктивно стремиться к творчеству.
Il aura une tendance tout à fait instinctive vers la création. C'est en cela qu'il a un lien avec son créateur, en quelque sorte.
Потому что творчество, что такое творчество? По существу.
La création, qu'est-ce que ça veut dire en fait, la création?
Для чего существует искусство?
À quoi sert l'art?
Почему?
Pourquoi?
Хорошо это или плохо?
Est-ce bien, est-ce mal?
Конструктивно ли это? Или это абсолютно чистое искусство?
Est-ce constructif ou est-ce simplement de l'art?
Но ясно одно, что искусство это молитва.
Mais il est clair que l'art, c'est une prière.
Это, этим все сказано.
Et cela veut tout dire.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Pierrick Charles à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Valérie Bourg. Bonne journée et à demain.
Merci Guillaume Gallienne. C'était donc une émission que vous avez déjà pu entendre sur France Inter le 14 mai 2016 et demain, toujours dans le cadre des rediffusions de l'été, entre midi et 13h, Le nom de la rose avec Umberto Eco. C'était donc le 21 mai 2016. En tout cas, cette émission que vous pourrez entendre demain, vous l'avez déjà écoutée le 21 mai 2016.